Qu'est-ce que c'est que l'horizon? Pourquoi l'horizon? Quel est le bénéfice de l'horizon? Il faut savoir que en théologie, nous comprenons en étudiant la personne de Dieu qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Il peut tout et il est partout. Et Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, se suffit en lui-même. Dieu se suffit en lui-même, ça veut dire que le Seigneur n'est pas comme nous qui avons besoin de lui. Dieu se suffit en lui-même, ça veut dire que l'homme n'ajoute rien à ce que Dieu est. Dieu est heureux, Dieu est plein, Dieu est parfait sans nous. Toi et moi, nous sommes imparfaits sans lui. Toi et moi, nous sommes, comme dit la prière à l'Esprit Saint, sans Saint-Esprit, il n'y a rien dans l'homme qui ne soit impur. Nous avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'eux. Et donc, l'oraison, c'est véritablement, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est, oraison qui vient de Horatio, l'oraison, c'est véritablement ce chemin de vie qui nous donne vraiment d'aller à la rencontre de Dieu parce que, ayant besoin de lui, nous avons besoin d'être vivants.
Amen.
Il y a dans l'épître de Jacques, il est écrit ceci. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. L'oraison est une prière méditative, donc une prière silencieuse. Silencieuse au sens où on ne fait pas forcément du bruit, on ne crie pas. Silencieuse au sens où nous allons non pas pour donner, mais pour recevoir. Nous allons dans l'oraison non pas pour demander, mais pour recevoir. Nous allons non pas pour discuter, mais pour rechercher, recevoir la volonté de Dieu, laisser Dieu se révéler à nous. Nous voyons dans la vie de Élie, un personnage de la Bible important, Élie va, après avoir fait de gros miracles, Élie va faire descendre le feu du ciel. Élie va véritablement, il va clasher le pouvoir établi à l'époque. Élie est un homme de Dieu puissant. Élie fait tomber le feu sur des soldats qui viennent l'arrêter. Élie est violent. La puissance de Dieu agit au travers d'Élie. Mais nous allons voir un Élie dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, un Élie qui est complètement brisé. Une personne qui fait descendre le feu du ciel, une personne qui est crainte par les rois, une personne de cette trempe brisée qui est complètement dépressif. Vous voyez, vivre des miracles, voir des guérisons. C'est vrai, l'apôtre Paul va dire que notre foi doit être aussi soutenu par la puissance de Dieu, notre foi est basée sur la puissance de Dieu, mais sachez une chose, ce n'est pas suffisant. Il arrive un moment dans la vie de l'homme, et aussi du chrétien et de tous en tant que nous sommes, il arrive un moment où nous allons véritablement nous rendre compte que nous avons un peu plus besoin du donateur que des dons. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aurait donné tout ce que tu veux, tu sentirais à un moment donné que tu as besoin du donateur, parce que le donateur en lui-même est plus important que le don. Les chrétiens du Gabon, les chrétiens du monde ont un problème. Ils vivent Dieu comme si Dieu était une idole. J'ai dit une fois à un frère à moi que les Gabonais, le plus grand, le problème, chrétiens en tout cas, c'est que ils sont idolâtres. Et leur idole, c'est Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, mais comment Jésus peut être une idole ou un idole? Bon, non, la vérité, c'est que je ne sais pas exactement si on dit une idole ou un idole. Je vais dire un idole. Bon, on va dire une idole. Et donc, sauf si tu veux m'aider, hein, Donald, tu m'aides un peu. On dit une idole ou un idole?
Une idole.
Ok. Et donc, vous allez me dire, mais comment Jésus peut être une idole? En fait, Jésus est une idole dans le sens où nous vivons notre relation à lui de façon idolâtrique.
André?
Nous. Oui?
Excuse-moi, c'est une idole.
Ah, une idole. Jésus est un idole. Jésus est un idole. Non, je pense que les deux se disent, je vais être une idole. Jésus est une idole parce que nous vivons notre vie chrétienne de façon idolâtrique. Ça veut dire que notre relation à Dieu est une relation d'idole à personne, de personne à idole. Les idolâtres, lorsqu'ils vont devant leur idole, ils n'aiment pas leur idole. Ils vont devant leur idole, ils utilisent leur idole. Ils vont aller vers un Dieu, vers une divinité, parce qu'ils veulent des choses, parce qu'ils veulent la protection, ils veulent la fertilité. D'ailleurs, dans les religions ancestrales, il y avait le Dieu de la fertilité, de la nature, de ci, de ça, parce que nous voulions justement, pour chacune de ces choses, une faveur. Une faveur. Et bien aimé, notre relation à Jésus est souvent la même que la relation avec les idoles de ces religions ancestrales. De ces religions ancestrales, autant pour moi. C'est que nous attendons de notre relation à Dieu seulement une personne qui va nous donner des choses. C'est bien souvent tardivement que nous réalisons que ce que nous avons vécu au début de notre conversion, c'était véritablement que nous étions poussés pour avoir une relation d'amour. Et que cette relation d'amour est plus importante que l'argent, que les enfants, que la famille, que notre bien-être physique. Amen. Et l'horizon va véritablement nous tourner vers cette réalité. Pour que Jésus ne soit pas, nous ne vivons pas notre relation à Jésus de façon idolâtrique, c'est-à-dire que Jésus ne soit pas juste un pourvoyeur de fonds pour nous. Nous avons besoin de devenir des amis. Nous avons besoin qu'il devienne notre ami. Nous avons besoin d'apprendre que Dieu est une personne, pas seulement de façon intellectuelle, mais de rentrer dans cette réalité, une réalité de relation, relationnelle avec lui. Beaucoup de gens disent une intimité avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prêchons l'intimité avec Dieu, mais combien réellement en ont, bien-aimés? L'intimité avec Dieu n'est pas une réalité que nous devons d'abord prêcher. Ce n'est pas quelque chose que nous devons, dont nous devons seulement parler. Ce n'est pas simplement un slogan. Ce n'est pas simplement lire la Bible et prier. L'intimité avec Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une réelle relation d'amitié dans laquelle nous sommes connus de Dieu et nous le connaissons.
Amen.
Nous le connaissons, nous commençons à l'entrevoir tel qu'il est, parce qu'il se révèle à nous. La Bible dit, dans Jean au chapitre 1, c'est Jésus qui parle, il dit, le Père, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils le fait connaître, le Fils qui est dans le sein du Père le fait connaître, il le connaît, et il le fait connaître à qui il veut bien le révéler.
Amen.
Bien aimé, Dieu est une personne qui veut se révéler à toi. Nous avons besoin, pour ne pas être trompés par les fausses mentalité de ce monde, par les fausses religions de ce monde, nous avons besoin de passer de la théorie à une vie d'amitié avec Jésus. Une vie d'amitié, une réelle vie d'amitié. Dieu est une personne, le Saint-Esprit est une personne, Jésus-Christ est une personne, le Père est une personne. Yahvé, Dieu, Adonai, est une personne. Et puisque c'est une personne, nous avons besoin d'une relation avec lui. Et l'oraison est un ascenseur relationnel. L'oraison, c'est un jardin. L'oraison est un rendez-vous. L'oraison est un rencard. L'oraison, c'est la maison dans laquelle avec Dieu, tu es uni à lui. L'oraison t'emmène à cela. Élie a, malgré tous les miracles qu'il avait vécu, et toi aussi, mon frère, ma sœur, malgré tous les miracles que tu as eu à voir, n'est-ce pas que des fois tu doutes quand tu as des problèmes? N'est-ce pas que comme Élie, des fois tu fais de la dépression? N'est-ce pas que des fois nous faisons de la dépression? Des fois nous sommes perdus et pourtant nous avons vu déjà Dieu agir dans nos vies et dans la vie des autres.
Amen.
Bien-aimé, j'ai vu le Seigneur en priant pour quelqu'un qui est stérile. J'ai vu le Seigneur donner l'enfant à cette personne-là.
Gloire à Dieu.
J'ai vu le Seigneur donner la vue aux aveugles. J'ai vu le Seigneur lever un paralytique. J'ai vu le Seigneur sauver quelqu'un de la mort. J'ai vu le Seigneur donner du boulot. J'ai vu le Seigneur
explorer
un certain nombre de choses. Mais malgré ça, je vais douter. Malgré ça, comme toi, mon frère, ma sœur, nous allons des fois avoir de gros doutes. Nous allons des fois être complètement brisés comme le prophète Élie. Pourquoi Dieu le permet? C'est parce que Jésus veut nous rappeler que ce qui nous garde debout, ce ne sont pas d'abord les miracles, les signes et les prodiges, c'est le fait d'être établi en lui, établi dans une amitié profonde avec lui. Il faut dire amen fort.
Amen.
Le fait d'être établi dans une amitié forte avec Jésus fait en sorte que nous l'aimions plus que tout. C'est ça qui fait en sorte que même si je n'ai rien, je reste attaché à lui parce que mon bonheur, c'est d'abord lui. Vous savez, les fous comme l'apôtre Paul qui disent, Seigneur, je veux, qui ont accepté de souffrir pour Jésus. Les fous comme Saint Martin qui, sur le bûcher, dit, vous n'avez pas bien, alors qu'il est en train de brûler, il rit, il fait le Notre Père. Bien aimé, ce genre de personnes, c'est pas tellement qu'ils ont eu des milliards, Dieu ne leur a pas donné forcément des milliards. C'est qu'ils étaient amis de Jésus. Et bien aimé, parce qu'ils étaient amis de Jésus, leur cœur était rempli d'amour pour lui. À quoi sert à un homme de gagner la terre entière s'il perd son âme? Mais je vais encore Amen. Plus loin. À quoi sert à un homme d'être chrétien qui n'est pas ami de Jésus? Bien aimé, ami de Jésus est le plus grand privilège. Être ami de Dieu, partager l'intimité de Dieu est le plus grand privilège qui soit réservé à un être humain. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu t'inquiètes pour ton enfant, tu t'inquiètes pour la maladie de ton parent, c'est vrai, mais je t'en supplie, sache une chose, ton amitié avec Jésus t'ouvre véritablement, t'ouvre véritablement la porte du vrai bonheur chrétien.
Amen.
L'oraison est donc un ascenseur d'union à Dieu. L'oraison est un moment, c'est véritablement une disposition qui nous donne de véritablement aller dans cette réalité. De comprendre que véritablement Dieu qu'il permet pour t'emmener dans sa gloire.
Amen.
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 Alors, bien-aimé, l'oraison, c'est une prière. Prière vient du grec proskuneo, qui signifie se prosterner. En d'autres termes, ça veut dire se mettre au pied de la personne que nous prions. Se mettre au pied de Jésus. Vous savez, si aujourd'hui, faisons un calcul simple, hein, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au moment de la Pentecôte, donc de la naissance de l'Église, nous avions 12 apôtres et quelques disciples. Ils étaient au maximum une vingtaine. Et bien aimé, aujourd'hui, de par le monde, il y a 2 milliards de chrétiens. 2 milliards sur, je crois, 5 milliards. 2 milliards de chrétiens. Vous voyez, moins de 100 personnes ont donné pour fruit 2 milliards de chrétiens. Mais regardez comment 2 milliards de chrétiens ne peuvent pas embraser le monde entier, alors qu'on est tellement plus nombreux que les apôtres de l'époque. Ces apôtres-là étaient véritablement unis à Jésus-Christ. Et Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis. Ils avaient une relation avec Jésus qui faisait en sorte qu'au travers d'eux, Jésus transparaissait. Ils étaient le Christ.
Amen.
Bien-aimés, aujourd'hui, reflétons-nous véritablement le visage de Jésus. Il ne s'agit pas ici simplement de faire le bien. Les francs-maçons le font aussi, les rosé-christiens, le Rotary Club et les autres. Beaucoup font le bien. Il ne s'agit pas de ça, de faire, de prendre de l'argent ou d'aller faire des dons. Il y a même des stars qui twerkent sur Facebook, sur TikTok, elles montent leurs fesses partout. Mais après, elles vont faire les dons. Donc ça, ce n'est pas un problème. Il ne s'agit pas de faire les dons. Faire les dons, tout le monde peut faire un don. Il y a des francs-maçons, des sorciers qui tuent leur frère la nuit, mais qui va après donner l'argent pour l'enterrement. C'est un don. Il ne s'agit pas de faire les dons. Il ne s'agit pas d'être gentil. Il s'agit ici que nous soyons transparents à la lumière, à la miséricorde de Jésus-Christ. Il s'agit ici que ce ne soit plus nous qui vivons. La Bible dit dans Galates au chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Alléluia.
Voyez, ce n'est pas simplement faire de la charité. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent faussement qu'être chrétien, c'est faire la charité. C'est faux. Être chrétien, c'est être le Christ. En Christ.
Amen.
Mon frère, ma soeur, l'oraison te donne accès à cela. L'oraison, c'est ton avec Dieu où tu le rencontres comme un ami. C'est cela l'oraison. Élie, malgré toute la puissance qu'il a manifestée, et nous le voyons en tant que serviteur de Dieu, des fois nous allons prier pour les malades, ils guérissent. Des fois nous allons faire plein de choses. Mais tout en faisant ces choses, à l'intérieur de nous, nous sentons que Dieu n'est pas, que nous ne sommes pas amis de Jésus. Nous sentons que Dieu est loin de nous. Nous sentons que nous avons besoin du donateur. C'est cela. Oui. Quels sont les fruits de l'oraison? Nous avons vu que Élie, dans 1 roi 19, à cause de sa dépression, il va chercher Dieu. Donc il va traverser tout un désert. Il va arriver sur une montagne. Et puis sur la montagne, il va attendre Dieu. En attendant Dieu, le feu va passer, la foudre va passer. La Bible dit que Dieu n'était pas dedans. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une brise légère. En bon terme, on dit brise légère, mais en réalité, le texte original parle du murmure d'un silence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu en réalité. En fait, Élie comprenait jusque Dieu était là, dans le silence.
Amen.
Mais, quels sont les fruits de l'oraison? Qu'est-ce que c'est que l'oraison? Je finis avec le point de qu'est-ce que c'est que l'oraison. L'oraison, bien-aimé, est un chemin. L'oraison est une prière qui est un chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui-même qui le dit. Je suis le chemin, la vérité. L'oraison est un chemin d'amitié avec Dieu. L'oraison est un chemin dans lequel nous comprenons que nous avons besoin de lui et nous allons à lui. L'oraison est un chemin dans lequel nous faisons quelques pas, Dieu en fait aussi, pour que nous puissions nous retrouver. L'oraison est véritablement un chemin qui va des fois passer. Un chemin sur lequel il y a plusieurs saisons. Il y a le désert, il y a la forêt. C'est-à-dire qu'il y aura dans l'oraison, il y a des moments de désert, donc où nous ne sentons pas Dieu. Il y a des moments aussi de forêt, il y a des moments de gloire où nous voyons, nous vivons la transfiguration. Je me rappelle comme ça, un jour pendant que je faisais oraison, il m'est arrivé une fois, je faisais oraison pendant 3 heures, mais je ne sens rien. Je sors de là, je me dis, mais Seigneur, c'est tellement... Et j'étais blessé parce que je me disais, Seigneur, je prie 3 heures, je ne sens rien, je ne vois rien, tout ça. Mais il m'est arrivé aussi des moments où je prie, je me rappelle, j'allais sur prison. Au bout de 15 minutes, le toit de ma chambre a sauté, je ne voyais plus le toit, je voyais le ciel. Je voyais le ciel et j'étais transporté vers le ciel. Et je me disais, Seigneur, c'est trop beau. Il m'est arrivé, je fais oraison, je suis éveillé, clairement, je ne dors pas, je suis éveillé. Et puis là, voix saute. Et puis, je vois des anges, la cour céleste, avec des instruments de musique. Et ils chantent la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'oraison, c'est véritablement... L'oraison, c'est véritablement un chemin sur lequel il y a dans lequel il y a le désert, il y a la forêt, il y a la faune, la faune non, mais il y a la neige, il y a la tempête, il y a l'été, il y a tout ça. C'est un chemin. Et dans ce chemin, tu marches avec Jésus, mais tu vas vers Jésus. Amen.
Amen.
Quels sont les fruits de l'oraison? Le premier fruit de l'oraison, lorsque nous regardons Luc chapitre 9, verset 28, c'est la transfiguration. La Bible dit qu'il y avait Pierre, Jean et Jacques. Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 26, Jésus au mont des Oliviers, à un moment donné, il se retire, il va un peu plus loin avec Pierre, Jean et Jacques. Et bien aimé, prenons la personne de Jean. Jean est celui et le seul parmi les disciples et les apôtres qui, au moment des récits de la résurrection dans les évangiles, qui le reconnaissait sans qu'il se présente, sans qu'il dise quoi que ce soit. Jean est le seul. Le seul. Le premier fruit de l'oraison, c'est que tu vas reconnaître Jésus, tu vas reconnaître son action dans ta vie, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les pires
Amen.
Comme dans les moins pires moments de ta vie.
Amen.
Bien aimé, l'oraison, ça Amen. Ne ment pas. En Côte d'Ivoire, ça ne ment pas. Quand une personne fait oraison, quand une personne a des temps d'intimité avec Dieu, ce qui le distingue, celui qui n'en a pas fait comprendre l'épreuve, celui qui a des temps d'intimité avec Dieu, ne panique pas vite. Je vous assure. Il peut paniquer, mais il ne s'agit pas trop comme celui qui n'en a pas.
Oui.
Voilà, il ne s'agit pas trop, parce qu'il connaît son Seigneur. Nous sommes des êtres humains, nous savons des pauvretés, des fragilités, des faiblesses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un fait oraison, la Bible dit... Et ça s'applique à lui. La chair est faible, c'est vrai, mais l'esprit est véritablement ardent.
Amen.
L'esprit est véritablement ardent. Il ne peut pas être ébranlé. Sainte Thérèse d'Avila, qui était une carmélite, a dit ceci. Elle qui est, qu'on appelle en église la maîtresse de l'oraison, elle dit ceci. Elle dit, quelqu'un peut aller à la messe tout le temps et aller en enfer, mais quelqu'un ne peut pas faire l'oraison tout le temps et puis aller en enfer, ne pas connaître Jésus.
Alléluia.
Parce que dans l'oraison, nous devenons amis de Jésus. Et bien aimé, le premier fruit donc, c'est que c'est la facilité, ou du moins la capacité de discerner la présence de Dieu. Quand quelqu'un fait oraison, quand il est dans un endroit, quand les gens font semblant, c'est-à-dire quand les gens font semblant d'adorer Dieu, il le sait. Il sait discerner la présence de Dieu. Il a une facilité à reconnaître œuvres de Dieu, une facilité à discerner la présence et les œuvres de Dieu. C'est la première chose.
Amen.
Le deuxième fruit de l'oraison, ça va être un amour inconditionnel. Je dis bien inconditionnel pour Jésus-Christ. C'est la personne, même si dit Seigneur, je veux une voiture et qu'il n'a pas la voiture, il va continuer d'aimer le Christ.
Amen.
Je ne suis plus chrétien, je deviens musulman, ou bien je vais maintenant dans les toujours. L'amour inconditionnel, un amour brûlant, un amour qui embrase notre être entier. C'est le deuxième fruit. Le troisième fruit de l'oraison, c'est les vertus. L'oraison cause quelque chose en nous, c'est la paix, la joie et la tranquillité de l'esprit et de l'âme. Et les personnes qui font oraison, c'est les personnes qui vont grandir rapidement en vertu. Ils vont être pas colériques. Ils vont être... C'est-à-dire que c'est les personnes qui, tu gifles de la jouvence, qui te montrent réellement la jouvence. Vous savez? Vous savez, hein? On peut tous prêcher l'évangile. On peut tous prier pour les malades. On peut tous prier, Dieu nous exauce. Mais c'est pas nous tous que quelqu'un va te gifler la joue gauche et puis tu montes la joue droite. Je vous assure, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tout le monde ne peut pas le faire.
Alléluia.
Pour pouvoir faire ça, hein, pour être ami de Jésus, il faut être réellement ami de Jésus. Pas seulement de nom, pas seulement parce que l'onction de Dieu repose sur toi, mais parce que tu as véritablement, j'ai envie de dire, une relation profonde avec lui.
Amen.
Grandir dans les vertus, la patience, la charité, la joie, la paix au milieu des épreuves. Voilà le troisième fruit de l'horizon, grandir dans les vertus. La facilité, lorsque quelqu'un te dit « tu es imbécile », tu peux lui dire « je t'aime et je ne réponds pas à ton avis ». Ce sont les fruits bien-aimés de l'horizon. Ce sont les fruits de l'horizon. La facilité à pardonner au point même que les gens pensent souvent que tu es bête ou ma boule. Tu es toujours en joie. Et tu ne fais pas semblant. Tu recherches l'humilité. Tu recherches. C'est-à-dire que même quand quelqu'un ne veut pas te saluer, dans ton cœur, ça te fait mal, ben, tu te dis, ah, nous sommes chrétiens, j'ai quand même envie de le saluer. C'est ça que produit l'horizon. Et bien aimé, ces choses-là, ça ne s'invente pas. Ça se vit. Parce que ton cœur devient ressemblant à celui de Jésus. Il faut dire amen.
Amen.
C'est le troisième fruit. Le quatrième fruit de l'horizon, ça va être la proximité avec le ciel et le royaume de Dieu. La proximité avec le ciel. Je me rappelle une fois, j'ai un frère à moi, pendant qu'on faisait, il faisait tellement horizon, un jour pendant un temps de prière, il s'est retrouvé sur le toit. C'est-à-dire qu'il était à deux endroits en même temps. Il était avec nous en train de prier, mais il nous observait aussi depuis le toit. C'est une grâce d'ordre mystique. L'oraison nous donne de basculer dans une vie mystique d'union à Dieu, qui nous fait basculer véritablement dans une plus grande proximité des choses du ciel.
Alléluia.
Alors, le frère Jung, qui a écrit « Citoyen du ciel », un jour, il marchait comme ça. Il marchait comme ça en Chine. Il fait un pas, deux pas, trois pas. Quatrième pas, il se retrouve en Allemagne. C'est purement mystique. C'est véritablement la proximité avec le ciel. C'est la proximité avec le ciel. De temps en temps, votre âme serviteur que je suis, j'ai eu la fois de discuter avec un saint du ciel. Ça arrive. Oui, tu vas te dire, mais écoute, André, voilà. Bien aimé, la proximité avec le ciel. Une fois, je me rappelle, j'étais avec des frères à moi, on était en train de prier après la prière. Les poils de mon corps sont devenus emplis d'ardeur, plus brillants. Et on était tous, mais comment c'est possible? La proximité avec le ciel. La proximité avec le ciel. J'ai remis une fois à une petite sœur à moi, elle me disait qu'elle n'avait pas d'argent. Je lui ai donné 5 000. Elle a mis dans son patron, elle a réouvert le stade. Les 5 000 francs. La proximité avec le ciel.
La proximité avec le ciel.
Il y a de nombreuses personnes qui ont vécu ces choses. Lorsque, dans la Bible, nous voyons le diacre Philippe qui, après avoir baptisé l'énuque éthiopien, va être transporté instantanément d'un endroit à un autre. La proximité avec le ciel, je me rappelle, j'étais avec un frère à moi, il s'appelle Jeffrey, de Sainte-Marthe, et puis j'étais avec un autre ami, Jaurès. On était en train de parler de Dieu avec mon frère Didier, on parlait de Dieu au niveau de la paroisse Saint-Michel. Et pendant qu'on parlait, à un moment donné, on nous bousculait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne nous bousculait plus. Et quand on regarde, on avait changé de marché. On avait été transporté d'un endroit à un autre sans avoir marché.
Alléluia.
sans avoir, c'est-à-dire d'un endroit à un autre sans avoir la proximité avec le ciel.
Amen.
La proximité avec le ciel. La proximité avec le ciel va rappeler au monde, au travers de nos vies, que Dieu est vivant. Il est véritablement tout puissant. Et il est véritablement dans la vie de celui au travers de qui il agit.
Amen.
La proximité avec le ciel. Je me rappelle une fois, j'étais avec une amie à moi, on était à trois, un ami, et puis cet ami-là, et puis elle me dit, et puis elle a la suite, elle a la suite, petit bébé, ça va. Et puis j'ai juste touché son dos, il soit guéri. En riant, bien aimé, depuis ce jour, ça fait aujourd'hui bientôt 10 ans, elle n'a plus jamais fait de crise de sunnisme. Mais en riant, c'est-à-dire, ce n'était pas la grande pensée, c'était juste soit guéri. La proximité avec le ciel, c'est un jour, je suis allé, j'étais au rond-point chez des amis à moi, je rentre, et puis j'ai vu la grande sœur de cette amie-là qui boitait, elle avait mal au pied, et puis je lui ai dit, mais tiens quoi, ah, j'ai mal au pied, j'ai tapé son pied. Et puis son pied a été instantanément guéri. La proximité.
Gloire à Dieu.
La proximité avec le ciel. La proximité avec le ciel. Bien aimé, toutes ces choses sont réelles. Et on peut les vivre dans l'horizon. La proximité avec le ciel peut permettre de voir le Christ agissant dans ta vie. Va t'ouvrir à des grâces inouïes. Des grâces que tu ne soupçonnais pas. Parce que tu aurais pris du temps pour véritablement devenir l'ami de Jésus. Parler avec Jésus. Le présenter.
Alléluia.
Fruit de l'oraison, c'est cela. C'est le quatrième but. Je suis au quatrième fruit, n'est-ce pas?
Oui, oui.
D'accord. Là, je suis au quatrième fruit. Le cinquième fruit de l'oraison, c'est le désir de souffrir pour le Christ. Le désir de souffrir pour le Christ et pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, les chrétiens sont des personnes normalement qui doivent être pointues. Pointues au sens où ils sont, comme dit en Côte d'Ivoire, ils sont papatos. C'est des personnes qui aiment se mêler de la vie des autres.
Amen.
Alors, toi, tu aimes te mêler de la vie des autres, pas te mêler. Mon frère, ma soeur, quand tu aimes les autres, tu ne peux pas ne pas te mêler de la vie des autres. Alors oui, il faut le faire de façon sage. Mais quand tu fais oraison, en fait, tu te sens responsable du salut de l'humanité avec le Christ.
Amen.
Pourquoi? Parce que tu entends véritablement dans ton âme le cri du Christ sur la croix qui dit « J'ai soif ». Eh bien, aimé, toi aussi, tu as soif de voir des âmes sauvées. Tu as soif de voir les autres heureux, tu as soif de voir la gloire de Dieu dans ton pays, dans ta ville, dans ta communauté, dans ton groupe de prière, dans ta famille, dans le monde.
Alléluia.
Et tu ne peux pas être totalement heureux si tu ne participes pas à l'œuvre de salut du Christ. Amen. Sixième Amen. Fruit de l'oraison, le courage et la détermination Dieu pour sauver les âmes avec Christ. C'est le sixième. Celui qui fait oraison ne peut pas rester sans rien faire. Si Dieu t'a donné la voix, tu chanteras pour lui. Si Dieu t'a donné les mains, tu prieras pour les gens. Si Dieu t'a donné une bouche, tu pries. C'est-à-dire que tu feras quelque chose, même si, même avec le plus petit des dons que tu as, même avec le don des langues. C'est le sixième fruit. Septième et dernier fruit, même si après, la liste n'est pas exhaustive, voilà. Septième et dernier fruit que je peux dire ici, c'est que quand on fait oraison, lorsqu'on est véritablement dans ce chemin, nous commençons à un moment donné à avoir le dégoût des choses du monde et le désir
Amen.
Des choses du ciel. C'est d'ailleurs Amen. Pourquoi l'apôtre Paul va dire qu'il préférerait être au ciel qu'être sur la terre, que s'il est sur la terre encore, ce qui le retient, c'est simplement parce qu'il s'inquiète pour les autres. Bien aimé, celui qui fait oraison à un moment donné va avoir le dégoût des choses du ciel, de la terre, et le goût des choses du ciel. Il va sentir qu'il va être brûlant. Pour... le goût des choses de la terre et le goût des choses du ciel. La curiosité pour les choses du ciel. Il va se sentir étranger sur la terre. Ou du moins, il va au moins se sentir vraiment comme quelqu'un qui est exilé. Il va se sentir véritablement comme... Il va vraiment sentir en fait que sa patrie, c'est le ciel. C'est le fruit de l'horizon. Ce sont les fruits de l'horizon. Alors, comment fait-on oraison? Sainte Thérèse d'Avila, qui est la maîtresse de l'oraison, Sainte Thérèse d'Avila va proposer deux méthodes qui sont similaires, mais bon, voilà. Ce qu'on va appeler la méthode carmélitaine, dans laquelle, et c'est celle que je vous propose, voilà. Dans la méthode carmélitaine, nous allons utiliser notre imaginaire. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes pensées, ton esprit, etc. C'est-à-dire que l'être humain entièrement, tout en homme, peut et doit être pourtant vers Dieu, vers sa gloire et vers son amour. Même notre imagination. Donc de façon concrète, ça va être quoi? Ça va être d'abord se préparer à l'oraison, c'est-à-dire ménager du temps, ménager un temps. L'idéal, c'est de prendre, pour pouvoir faire oraison tous les jours, pour ceux qui travaillent, c'est de prendre voilà, 15 minutes, 20 minutes, voilà, ou une heure, voilà. Maintenant, pour ceux qui peuvent, 2 heures, 3 heures, peut-être pas tous les jours à cause des occupations, mais prendre même une fois par semaine ou une fois par mois, un bon moment, c'est-à-dire 3 heures, 4 heures ou 5 heures, mais de façon quotidienne, 30, 15 minutes, 30 minutes, voilà. Ménager du temps. Quand tu ménages du temps, voilà, 15 minutes, 30 minutes, 10 minutes, 1 heure, ça dépend, en fonction du temps que tu peux, voilà. Tu ménages du temps, premièrement. Deuxièmement, concrètement, comment faire oraison? Après avoir ménagé du temps, c'est préparer un endroit où tu vas faire oraison. Ça peut être à ton salon, dans ta chambre, peu importe, mais un endroit, si possible, à un endroit calme. Voilà. Un endroit calme, un endroit où tu peux être à l'aise, voilà. Où tu peux te mettre à genoux tranquillement, tu peux te prosterner tranquillement ou t'asseoir tranquillement. Troisièmement, pour pouvoir faire oraison, ce que moi je recommande personnellement, c'est de mettre, soit tu peux le faire dans le ciment complètement, ou alors de mettre un fond sonore, c'est-à-dire un petit instrumental qui va apaiser ton cœur. Voilà, un petit instrumental assez doux de piano ou ce que tu veux, mais un instrumental que tu aimes particulièrement qui te permet d'apaiser ton cœur. Quatrième chose que je peux te faire recommander pour l'oraison, après avoir créé ces conditions-là, après avoir mis en place ces conditions-là, c'est commencer à prier en demandant au Seigneur la grâce de bien faire oraison, la grâce de le rencontrer, la grâce de véritablement, sur ce chemin, évoluer avec lui, la grâce simplement d'être conduit par lui.
Amen.
Cinquièmement, ça va être prendre 5 minutes, pas plus, soit 5 minutes ou un peu moins, pour tout dire à Dieu. Ouvrir complètement, sincérité totale. Si tu veux sortir avec la femme de ton frère, tu dis, Seigneur, honnêtement, c'est chaud, j'ai envie de sortir avec la femme de mon frère. C'est-à-dire, honnêteté absolue. Dieu n'a pas besoin que tu viennes dîner au sein. Le Seigneur a besoin de ton honnêteté et de ta franchise totale. Parce que si tu ne l'aimes pas avec lui, avec qui tu vas l'être? Honnêteté absolue de tes péchés, de tes frustrations, de ton bonheur aussi, de ta joie. Tu dis tout, Seigneur, je suis content parce qu'il y a telle chose. Mais tu sais, j'aurais aimé telle chose. C'est véritablement s'ouvrir totalement. Après avoir pris du temps avec Dieu de cette façon, après lui avoir tout dit, mais véritablement tout. C'est après ça, Seigneur, je veux sauver le monde entier. Je veux guérir les malades. Tu dis tout. Mais Seigneur, je n'ai pas de travail. Tu lui dis tout. Tu sais, tu dis tout. Après avoir pris le temps de dire tout, il y a deux méthodes à ce moment-là. Verset de la Bible traite d'une partie de la vie. Jésus, ça va être sa résurrection ou même sa mort ou un miracle qu'il a eu à faire. Tu prends ce verset, tu le lis, tu vas le lire plusieurs fois. Après l'avoir lu plusieurs fois, moi je recommande plus soit sur la résurrection ou la passion de Christ. Après l'avoir lu plusieurs fois au point de psychologiser, tu fais maintenant rentrer tout. Tu vas fermer tes yeux, tu vas te penser, tu vas visualiser la scène de ce que tu viens de lire, de sorte que tu ne le lises pas seulement, mais tu visualises la scène en pensée. Puis simplement, tu restes là-dedans, en présence de Jésus. Et puis tu le contemples, tu le regardes, tu le regardes et tu restes là en sa présence. Et Amen. Puis tu peux lui dire à ce moment-là juste que tu l'aimes. Tu peux lui dire que tu ne l'aimes pas assez, tu veux l'aimer plus. Tu peux lui dire que tu as besoin de lui. Tu peux lui dire que tu veux être son ami. Tu peux ne rien dire si tu n'as rien à dire et simplement être là. Et même si tu t'endors, quand tu te réveilles, tu restes là. Même si après, à un moment donné, tu es distrait et que tes pensées vont ailleurs, ce n'est pas grave. Lorsque tu te souviens que tu es en horizon, tu restes là. Et quand tu as les pensées qui te distraient ou des choses comme ça, tu dis simplement, Seigneur, je te confie ça. C'est tout. Mais tu restes présent à Dieu. Tu restes présent à Dieu. La deuxième méthode, c'est qu'au lieu de lire le verset biblique, cinquièmement, au lieu de lire le verset biblique, tu peux prendre une image de Jésus que tu aimes bien. Ça peut être Jésus miséricordieux, ça peut être Jésus le bon berger, une image de Jésus que tu aimes bien. Et puis en fait, tu visualises l'image, soit tu as cette image de toi, tu la regardes simplement, ensuite tu fermes les yeux et puis tu contemples cette image, tu contemples Jésus. Et puis à un moment donné, ben voilà. Troisièmement, tu peux, moi c'est comme ça que je fais raison personnellement, c'est dire simplement Jésus, je t'aime. Donc tu peux prendre une phrase, Jésus, je t'aime. Et tu vas le dire durant tout ton temps d'oraison, pendant tes une heure, Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus. Une fois que tu fais ça, je vais te dire ça. Bien aimé, l'oraison est un, comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu secret. C'est un jardin auquel n'a accès ni les anges, ni la Vierge Marie, ni personne, ni les saints, ni tes amis. C'est un lieu dans lequel il n'y a que Dieu et toi. Et dans ce lieu, il n'y a que Dieu et toi. Le Seigneur et toi allez cultiver et pour être cultiver le jardin. Ça voudrait dire quoi? Si dans moi, dans mon jardin de l'oraison, dans mon intimité avec Dieu, c'est des roses, dans le tien, dans la tienne, ça va être des hibiscus. Dans quelqu'un d'autre, ça va être des orchidées. Nous avons tous des intimités avec Dieu différentes. Pourquoi? Mais simplement parce que nous sommes tous différents. Dieu, même s'il nous aime tous de façon infinie, il ne nous aime pas pareillement. Je donne souvent cet exemple-là. Si tu prends la viande préférée que tu aimes et le dessert préféré que tu aimes, on te demande de choisir entre les deux, tu ne peux pas parce que c'est des goûts différents. Mais en fait, tu les aimes tous les deux. Tu fais rarement, mais tu les aimes tous les deux vraiment. Bien aimé, nous avons tous des parfums différents. Et l'oraison de notre vie, l'intimité de notre vie va être un parfum différent pour chacun. Même si Dieu nous aime tous, il ne nous aime pas en gros, il aime chacun particulièrement et infiniment. Amen.
Amen.
Et donc, ce que je viens de vous enseigner là, c'est la porte. C'est juste la porte. À vous de la prendre. Et où cette intimité va vous emmener. Certains d'entre vous, à son raison, au bout de un mois, vous allez commencer à voir des apparitions de Jésus. D'autres, c'est au bout d'une semaine. Certains d'entre vous n'allez jamais avoir d'apparition, mais en faisant raison, votre cœur va être rempli de tellement d'amour pour Dieu et pour les hommes. Et puis vous allez peut-être voir des anges. Certains d'entre vous, ça va être simplement, Seigneur, je veux aussi prier pour la conversion des pécheurs. L'oraison va pour chacun être le lieu où, avec le Christ, nous allons partager quelque chose que le monde ne pourrait définir. Quelque chose de particulier, de puissant. Quelque chose comme une relation amoureuse avec Dieu. Bien aimé, cette relation amoureuse avec Dieu est différente de chacun. Et à toi de découvrir à quoi elle doit ressembler. À quoi la tienne doit ressembler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen.